Je suis avec Jérôme Vincent aux Utopiales, bonjour.
Bonjour.
Alors, multi-casquette, modérateur pour les Utopiales, présent surtout pour ActuSF. Vous avez aussi d'autres choses dont on parlera, fiction avec la nouvelle mise en forme et tout ça, et puis le magazine L'Indé de l'Imaginaire. On va commencer par l'anthologie des Utopiales, avec comme thème « Autre monde au singulier ou au pluriel ». Vous, en tant qu'ActuSF, ça vous évoque quoi, Autre monde, et vous l'auriez pris plutôt au singulier ou au pluriel?
J'aurais pris plutôt au pluriel, parce que moi je suis un lecteur de science-fiction, donc Autre monde au pluriel, ça me va bien, voilà. Et puis au-delà de ça, on nous présente souvent le futur comme étant sans alternative possible, et avoir Autre monde au pluriel, c'est plutôt chouette de se dire qu'effectivement il y a peut-être plusieurs voies et qu'on peut peut-être développer plusieurs choses.
Pour cette anthologie, vous avez encore du beau monde. Bon, Orson Scott Card, William Gibson, parce qu'ils sont très mis en avant cette année pour être présents aux Utopiales. Et surtout, vous avez des inédits à l'intérieur, ce qui est des choses pas forcément très faciles à récupérer. Comment vous vous débrouillez pour ça? C'est votre carnet d'adresse ou...
Oui et non. Dans le sens où l'anthologie Utopiale, c'est un peu particulier parce qu'on travaille dans un temps restreint sur une thématique donnée et avec une liste restreinte d'invités. Le job, c'est d'arriver à colliger un certain nombre de nouvelles, plus ou moins dans la thématique, à partir donc des invités. Globalement, pour les Français, c'est assez facile, hein. Pour les Anglo-Saxons, il y a deux manières de travailler. Soit on a le mail direct, comme Ian McDonald, donc on a pu discuter directement avec Ian. Soit on passe tout simplement par l'agent. C'est-à-dire qu'on lit pas mal de choses en français ou en anglais s'il y a une réédition ou si c'est un inédit. Et puis, on écrit à l'agent en disant, monsieur ou madame l'agent d'Orson Scott Card, on aimerait telle nouvelle. Et voilà, combien, dans quelles conditions, etc. Donc, la bonne surprise de cette année, c'est que autant ça nous est arrivé d'avoir des choses qui n'étaient pas possibles les années précédentes, autant là, tout était possible. Donc, c'était merveilleux. On a réussi à tout avoir.
Sur les inédits, vous pouvez les mettre un petit peu plus en avant, parce que c'est ce qui fait surtout l'intérêt d'une anthologie.
En fait, il y a un gros boulot. Enfin, on cherche une nouvelle d'auteur anglo-saxon, plus ou moins sur la thématique. Donc, il y a un gros boulot en un minimum de temps, essayer d'être pertinent et trouver les nouvelles. Donc, il faut d'abord circonscrire le champ de recherche. Et puis, une fois qu'on a ça, on lit, tout simplement, de manière très 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 basique. Hein. Et puis, à partir du moment où on lit et qu'on a trouvé ce qu'il nous faut, il faut que ce soit un texte qui soit pas trop long non plus, parce qu'il y a des histoires de coûts de traduction qui rentrent en ligne de compte, on contacte l'agent. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, il y a des bases de données qui s'appellent Nosphere, il y a la même chose en anglais, on travaille à partir de ça, on cherche les publications qui sont inédites, qu'elles soient récentes ou pas, et puis à nous de faire le job, quoi. Le plus compliqué parfois, c'est d'arriver à trouver la bonne anthologie ou le support, parce qu'il y a plein d'auteurs qui souvent ont fait des nouvelles dans des magazines ou dans des revues qui sont plus du tout disponibles, même pas piratées sur le net, un truc incroyable, quoi. Donc du coup c'est un peu compliqué. William Gibson, il écrit très peu de nouvelles, et l'anthologie qu'on a été chercher, il a fallu carrément acheter l'exemplaire papier. Donc il faut faire venir l'exemplaire, lire. Bon, c'est pas très dur. Hein. Amazon existe et d'autres trucs existent, mais ça va. Donc voilà.
14 nouvelles pour les Utopiales 2013. Ouais. Pourquoi pas 13 du coup?
Parce qu'on ne l'a pas réfléchi comme ça. Il y a un pool d'auteurs qui sont invités. On travaille beaucoup avec Hugo Bellagamba qui au fur et à mesure nous donne des informations. Donc on contacte les auteurs. Et puis au fur et à mesure, pif paf, la sauce s'est faite, quoi. Il y a des choses qui sont arrivées un peu parfois en dernière minute. Par exemple, on a un peu hésité sur Peter Watts. Et puis il se trouve que Peter Watts, c'est une nouvelle qui a été éditée dans Solaris. Petite diffusion en France, donc assez peu connue des auteurs français, mais déjà traduite, donc c'est intéressant pour nous. Donc là, on s'est dit, on a craqué, on a dit, allez, il y a une opportunité, là, on y va, quoi. Puis il y a des choses qui ont été faites il y a 6 mois, que ce soit le texte de Thierry Lirolo ou Stéphane Beauverger.
Avoir un panel comme ça, très éclectique, c'est obligatoire. Vous avez Andréa Sejbar, vous avez Thomas D. Faut que ce soit représentatif de toute façon du monde entier. Alors bon, avec Autre Monde, c'est forcément ça, mais vous voulez vraiment avoir une multitude d'auteurs de tous les pays, presque tous les continents?
Ouais, pour deux raisons. D'abord parce que ça se fait assez peu dans les anthologies. Il y a très peu d'anthologies qui mixent auteurs anglo-saxons et auteurs français. C'est un peu moins à la mode, cette différenciation entre la France et par exemple l'Angleterre et les États-Unis. Mais c'est bien aussi de pouvoir rassembler les imaginaires, pouvoir les confronter. Et au final, quand même, ce qui est rigolo, c'est que c'est la cinquième. Donc ça fait 5 ans qu'on mélange des auteurs anglo-saxons et étrangers et des auteurs français. Et au final, on a une photo assez étonnante de ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou chez nous. Ce qu'est l'imaginaire aujourd'hui, finalement, ces anthos des utopiales, ça représente bien. Ce qui se fait, enfin je veux dire, et puis c'est rigolo de croiser un Peter Watts avec des formes extraterrestres de nuages, des choses comme ça, et un Norman Spinrad, une nouvelle qui a été écrite un petit peu tôt sur un premier contact, ça, différence de génération, différence de thématique, différence de style, et en même temps, une Sylvie Lainée avec son univers qui apporte aussi un autre éclairage, et pourtant, on est toujours dans des thématiques d'autres mondes, de rencontres extraterrestres, etc. Donc c'est marrant comme cette anthologie, en mixant tout ça, ça fait une photo. Voilà. Et souvent, on conseille à des gens qui aimeraient un peu découvrir la science-fiction ou se remettre au goût du jour. Alors, j'ai lu la SF dans les années 70 et maintenant je suis un peu perdu. Et là, vous avez pile poil ce qu'il faut pour à la fois piocher des Français et des Anglais et des Allemands.
Vous prenez des textes qui sont récents, du coup, pour être raccord, ou est-ce que vous arrivez... Enfin, alors peut-être pas pour... Pas pour celle-là, mais pour les précédentes, il n'y avait pas de texte 1950.
Non, non. Du coup, il faut que ce soit les auteurs invités. La seule entorse qu'on ait faite, c'est avec Larry Niven. C'était en 2010, parce que Larry Niven, ça fait un petit bout de temps que, enfin, il écrit, hein, mais il est quand même assez âgé. Et du coup, j'ai un peu galéré pour trouver une nouvelle. Donc, on a pris une nouvelle qui était un peu old school. Mais sinon, en général, c'est quand même des textes des années 2000 ou 2010. Donc, c'est assez récent, quoi.
On reste quand même sur quelque chose de très occidental. La SF japonaise, alors africaine, je connais pas. Ouais. Amérique du Sud, il y en a, mais pas autant que ça. On pourrait imaginer quelque chose de vraiment global ?
Alors, non. Parce que c'est pas le deal. Les éditions La Talente, par Bruno de la Chiesa, le faisaient très bien. C'est-à-dire que Bruno de la Chiesa avait une vision mondiale de la science-fiction, et c'était incroyable, parce que vous aviez aussi bien des textes des pays de l'Est, de la Russie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Et après, ils se débrouillaient avec le festival pour en faire inviter certains. Nous, on travaille plus dans l'urgence, plus sur du connu, et le deal, c'est vraiment de travailler à partir des auteurs invités. Donc ça veut dire que quand on a un Andreas Eschbach qui vient d'Allemagne, on se débrouille. Quand on a quelqu'un qui vient d'Italie, on se débrouille. Pareil pour des Espagnols ou des choses comme ça. Si demain les Utopiales invitent un auteur japonais, on verra ce qu'on peut faire pour le japonais. Mais nous, on est vraiment collés à la programmation. C'est une anthologie. L'objectif, c'est pas, elle est pas indépendante des Utopiales. Hein, l'objectif, c'est pas de rendre compte de la SF. C'est de faire une anthologie à partir des invités. Et à partir des invités, on a une image de la science-fiction.
C'est le petit cadeau qui permet de revivre un petit peu les utopiales chez soi en relisant, après avoir entendu les auteurs invités d'ailleurs en conférence.
Ouais, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Alors c'est évidemment le cadeau bonus, voilà. Mais vu la qualité de certains textes, je pense que c'est une anthologie qui vit en elle-même. Cette année, faut lire Norman Spinrad ou Peter Watts, quoi. Faut lire Thomas Day. Voilà, Thomas Day, c'est la seule nouvelle de fantasy. C'est pendant tes dents quand même. Donc c'est pas un gadget dans le sens. Et d'ailleurs, les auteurs le considèrent pas comme un gadget. Les auteurs le considèrent comme une anthologie et on fait jamais une nouvelle en gadget, on fait une nouvelle et on fait la meilleure histoire possible. Et cette anto-là, c'est ça, quoi.
Autour d'Actu SF, vous avez aussi bien sûr votre site internet, alors tous les bouquins que vous ressortez, mais sur votre site internet et votre forum, vous remettez une grande partie des interventions qui sont là. Ça vous demande un travail considérable, ça se passe bien.
Oui, ça se passe bien. C'est la 6 ou 7e année qu'on fait ça aux Utop. On est très heureux de le faire. C'est assez rigolo parce qu'au final, il y a une espèce de mémoire des Utopiales parce qu'on prend énormément de vidéos, de photos et surtout on enregistre toutes les confs. En fait, le bilan sur les confs, c'est que ça fait des années qu'il y a des conférences partout. Et puis, donc il y a un jus de cervelle assez extraordinaire qui sort de ces conférences. Et puis, si vous n'étiez pas aux conférences, pas de bol. Donc du coup, tout ce jus de cerveau-là, on l'enregistre. On le retransmet et on le met à disposition des gens. Et on a plein de gens qui adorent ça et qui, pendant un mois, passent leur vie avec les confs des Utopiales. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 850 conférences en ligne sur ActuSF. C'est un gros boulot. Voilà, là, il y a 8 personnes d'ActuSF qui ont fait le déplacement. Parfois, on est un peu plus. On n'est jamais moins. Et c'est un gros boulot. Il y a des gens qui ne font que ça pendant 4 jours, quoi. Voilà, ils n'ont pas vu beaucoup de festivals, mais ils ont mis de la matière en ligne. Mais c'est chouette aussi de se dire qu'au fur et à mesure, on participe un peu à l'histoire de l'imaginaire en France, quoi. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour nous qui sommes des fanboys à la base, on fait pas ActuSF si on n'est pas passionné, ça marche pas, quoi. Et ben ouais, ça fait plaisir. Puis au fil du temps, ça fait quand même pas mal de choses. Enfin, je veux dire, faut voir les vidéos de Gibson en 2008, quoi. C'est quand même des grands moments, les vidéos de Neil Gaiman l'année dernière ou de Michael Moorcock. Donc non, on s'éclate. C'est chouette. On bosse, mais on s'éclate.
Au-delà des Utopiales, l'anthologie qui est disponible, vous avez d'autres sorties prévues d'ici la fin de l'année ou début année prochaine, puisque vous êtes aussi éditeur.
Exactement. D'ailleurs, l'anthologie des Utopiales, c'est un bouquin parmi entre 10 et 15 par an pour nous. Pour vous faire rapidement le programme, on a un recueil de nouvelles de George Martin qui sort mi-novembre. Nouvelles en grande partie inédites. George Martin, c'est un auteur qu'on suit, hein, c'est le quatrième. On en fera un cinquième avec lui. Et c'est surtout un auteur qui, avant le Trône de Fer, a 20 ou 30 ans de carrière derrière lui, quoi. Donc il a multiplié les nouvelles et c'est les nouvelles et les romans. Et c'est un écrivain à part entière. Voilà. Donc on est très très fiers de sortir ce recueil-là, qui sera beau, qui sera bon, et qui est arrivé là dans les stocks, donc qui va arriver en librairie. Donc ça, c'est la grosse sortie, le cadeau de fin d'année. En janvier, on a un super roman de zombies de Fabien Clavel. Vous imaginez Paris qui est envahi par des zombies, et un groupe de petits vieux dans une maison de retraite qui essayent de survivre. Voilà, c'est la horde sauvage à roulette. C'est à la fois drôle, méchant, cynique, on a beaucoup, 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 beaucoup rigolé, quoi. Et c'est Tati Daniel en pire, mais avec des zombies qui courent derrière. Donc ça, l'Évangile cannibale, janvier, ça va être un bon moment. En février, on a un recueil Liavec de Robin Hobb et Steven Brust. Donc un ensemble en fix-up avec, vous allez avoir 5 nouvelles. Les premières nouvelles présentent un peu les personnages et tout le monde se retrouve à la fin. Donc ça, c'est un joli moment aussi. En mars, on aura aussi Nos Amis les Fées, Polar féerique de Karim Berouka, bien déjanté, bien rock'n'roll comme je sais faire Karim, et ça va arracher du slip, sérieusement, donc ça c'est bien. Et puis dans les choses qui vont arriver en fin d'année, nous aurons un recueil inédit de Robert Silverberg, Magipour. Ah, c'est une excuse que je vous donne. Il y aura l'Opéra de Chaya, un recueil de nouvelles de Sylvie Lenné, et la nouvelle éponyme est juste extraordinaire, elle est largement du niveau, si ce n'est encore mieux. On a inauguré une collection avec la Maison d'ailleurs, c'est important parce que là, on l'a en avant-première, mais ce sera en librairie en février-mars, qui s'appelle les collections de la Maison d'ailleurs, qui sont en fait des guides liés aux expos, donc là c'est le post-apocalyptique, donc la science-fiction. Le prochain, en février-mars, ce sera les super-héros. Et puis, en février, je l'ai fait dans le désordre, il y a la nouvelle mouture de Fiction. Donc Fiction, qui est la revue des moutons électriques et qui devient en fait la revue du collectif Les Indés de l'Imaginaire. Et donc ActuSF portera le premier, Nemos le deuxième et Les Moutons le troisième. Une revue qu'on a tout changé, tout en gardant la base qui sont les bons textes, avec un rédacteur en chef génial qui s'appelle Julien Bétan. Tout est maquetté par Aurélien Polis. C'est la grande classe.
Pour revenir un peu sur Fiction quand même, parce que ça change déjà de la couleur, changement de format. Par contre, sur la parution, on reste sur un rythme trimestriel.
Fiction, donc une revue. Il faut savoir qu'une revue, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est la plus vieille revue de science-fiction en activité. C'est une revue qui, aujourd'hui, a son rythme. Nous, on avait envie de donner un coup de fouet avec les moutons, et les moutons en tête là-dessus. Donc on a pas mal bossé. Une des manières de faire, c'est quand même de changer de fond en comble, donner une nouvelle maquette à Aurélien Polis, se débrouiller pour pouvoir faire tout couleur, c'est-à-dire 272 pages. Par contre, ça reste des volumes qui sont compliqués à faire, dans le sens où c'est très riche en termes de nouvelles, en termes de rubriques, etc. C'est très cher à fabriquer aussi. Donc voilà, on va étaler la parution, il y aura 3 numéros par an, et à chaque fois, on espère que ce sera un événement. On tient aussi à garder un prix qui est, comme somme toute, assez raisonnable, de 15€ pour ce bouquin-là. Voilà. Mais encore une fois, comme ça participe à cette envie-là qu'on a, d'essayer des choses un petit peu différentes, d'essayer de faire un pas en avant et de bousculer, d'avancer, de dynamiser. Voilà, parce que ça, c'est un truc qu'on a besoin. On a besoin et on a envie de donner envie.
Ça vous sert un petit peu de laboratoire pour tenter des petits coups ou Internet reste aussi un peu pour ça?
Ça dépend ce qu'on appelle des coups.
Nouvel auteur.
Ouais, alors non, parce que c'est cornaqué par il y a un Jean-Jacques Régnier qui fait ça très bien et un comité de lecture qui bosse et qui sélectionne les auteurs français en plus des auteurs anglo-saxons. Donc ce qui fait la qualité de Fiction, c'est quand même la qualité de ses textes. Et donc ça, on va pas y toucher. Ça sert à rien. En revanche, je suis très fier de pouvoir participer à cette nouvelle aventure en tant qu'éditeur, en tant que fan. Je pense qu'on apporte quelque chose. Donc, c'est pas une histoire de coup. Si on veut parler d'éditeurs et d'essais de nouveaux auteurs, il est vrai qu'on a des problématiques qui sont les problématiques de tous les éditeurs. Est-ce qu'on met une pièce sur un nouvel auteur qui est inconnu? Notre seule, une petite réponse, c'est de temps en temps essayer des petites choses en numérique. Mais voilà, c'est pas plus, pas moins.
Au niveau de la couverture du prochain fiction, ça représentera quoi ?
Alors, l'idée de la couverture de fiction, c'est à chaque fois de reprendre un visage d'un auteur célèbre pour plusieurs raisons. Donc là, on pensait avoir William Gibson, mais on a fait une ébauche sur William Gibson. En fait, la couverture, ce sera sur Robin Hobb, très clairement. Et ça fait 13 ans, avec Internet, on a donné des visages à des auteurs. Avant, les auteurs, c'était des petites vignettes sur les quatrièmes de couverture. Aujourd'hui, c'est des photos, c'est des vidéos, on leur a donné des visages, et on va travailler comme ça avec Aurélien Polis pour mettre en avant leur visage, quoi. Parce que c'est important aussi qu'on puisse identifier les auteurs au-delà de leurs écrits. C'est aussi une manière à la fois d'être classe dans le visuel et de se démarquer un petit peu des paysages et des vaisseaux spatiaux. On a envie de faire quelque chose de classieux. On a envie que les gens prennent la couverture et fassent « waouh ». Voilà. Si on arrive à faire ce « waouh », on a gagné.
Un mot sur l'Indé de l'imaginaire, une nouvelle petite revue, petite parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais format bande dessinée, donc quand même d'une taille certaine, gratuit, distribué dans les librairies.
Ouais. Donc, je vais la faire courte, mais il y a un an, on a fondé les Indés de l'imaginaire. Donc, trois éditeurs qui se regroupent, Nemos, ActuSF et Les Moutons Électriques, pour travailler ensemble. Une des choses qui nous semble essentielle, c'est de pouvoir communiquer ensemble et de voir ce qu'on peut faire. Donc, il a été décidé qu'on allait faire une revue gratuite en librairie pour pouvoir faire un peu de promotion de ce qu'on fait, tout en sachant que ce qu'on fait, il y a un objectif de qualité et d'apporter des choses. Donc, on a lancé au mois d'août ce premier numéro, tirage 15 000 exemplaires, donc dans toutes les librairies. C'est des choses qu'on fera 2 à 3 fois par an. Le format va un petit peu évoluer parce que on a essuyé les plâtres avec le premier et qu'il faut réfléchir à comment faire, etc. Mais on aimait bien l'idée que les gens en librairie puissent avoir ce truc-là gratos, lire des apporter du contenu aussi. Parce que c'est important qu'aujourd'hui qu'on puisse apporter du contenu en plus de nos livres. Le livre, c'est pas simplement une couverture, une quatrième. Donc on puisse parler avec l'auteur, qu'on puisse aussi donner des informations sur nos prochaines sorties. C'est un super outil promo. C'est un outil promo qu'on n'aurait pas pu supporter tout seul sur ActuSF. À 3, ça le fait bien. Tout simplement.
Vous avez eu une émotion particulière sur une des conférences que vous avez suivies jusqu'à maintenant. Alors, les Utopiales ne sont pas finies, mais il y avait des invités, bien sûr, tous très prestigieux. Ils étaient tous formidables, etc. Mais est-ce qu'il y a un petit moment ou peut-être quelque chose qui vous a surpris? Jean-Pierre Dionnet disait hier qu'il était surpris de voir Norman Spinrad et Orson Scott Card s'entendre aussi bien. Est-ce que vous avez détecté un petit truc comme ça ou une phrase qui vous a...
Il y a deux choses. Il y a les interviews en tête-à-tête. Orson Scott Card, ça reste un grand bonhomme. Alors, le type pense ce qu'il pense, mais quand on parle littérature, c'est la classe. En plus, moi, j'avais interviewé il y a 13 ans maintenant, donc c'était rigolo. J'adore Ian McDonald, il y a un nombre d'idées à la minute extraordinaire. Peter Watts, c'est pareil. En plus, c'est des gens qui sont d'une gentillesse. Ça fait plaisir, quand ils passent en France, de pouvoir les interviewer et leur poser quelques questions. Donc ça, c'est cool. En tant que modérateur, j'ai kiffé la conférence avec Alain Damasio, notamment Ian McDonald, sur Citoyens du futur. J'ai adoré la conférence de Jack Vance aussi. Mais globalement, moi, je suis un fan des Utopiales. Je veux dire, on a un festival qui est merveilleux. On a des dizaines de milliers de personnes qui viennent, ça tourne. Les gens, dès le jeudi, étaient assis par terre. Et pourtant, il y a eu plus de sièges que l'année dernière pour suivre les conférences. C'est des moments extraordinaires. Je veux dire, on parle beaucoup de la crise du livre, mais en France, on est quand même bien outillé en matière de science-fiction et de fantasy. Donc voilà, donc ça fait partie des petites choses assez sympas. Puis la soirée de remise des prix, c'était quand même cool, quoi, de pouvoir avec Daniel Tron qui était très très drôle. Voilà, et puis parce qu'il y a la soirée de remise des prix, mais c'est chouette de faire partie de cette organisation-là. Il y a tout ce qui se passe autour, à la fois quand ça déconne et à la fois quand il faut recadrer des petites choses en direct. Enfin, c'est génial à vivre, quoi.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Vous avez déjà les dates ?
Alors non, moi j'ai pas les dates, mais oui, j'espère bien qu'on va reconduire le partenariat.